3.
État d'alerte jaune déclenché par toutes les stations. Capitaine, je capte une espèce de signal radio subspatial.
Passez-le sur écoute.
Analyse, monsieur Data.
Les détecteurs relèvent de nombreuses fluctuations gravimétriques assez inhabituelles.
Inhabituelles, c'est-à-dire précisées.
Quelque chose de jamais.
Bonjour tout le monde, donc désolé de ce petit délai. Donc nous voici maintenant en direct avec notre invité spécial, tel que promis et tel que vous avez pu voir sur notre page Facebook tout au cours de la journée d'hier. Donc Yann, bienvenue sur l'émission. Encore une fois, ta deuxième présence. Et notre très cher fidèle Marc, donc bonjour Marc.
Ouf. Je suis le fidèle toutou.
Arrête donc. Donc, Yann, en direct de Las Vegas.
That's right.
C'est à combien de année à Star Trek Las Vegas?
Cette année, c'est déjà ma quatrième année.
Wow.
Quatrième fois que j'ai à Las Vegas.
Ouais. De suite?
Puis au début, de suite. La première année, c'était comme un one-shot. C'est comme une expérience, puis je pensais pas nécessairement retourner à chaque année, mais me voilà encore 4 ans plus tard.
Fait que là, c'est ça, parce que là, bon, moi, c'est ça, cette année, j'ai vraiment embarqué dans la communauté Star Trek, parce qu'avant, je me disais, c'est juste une grosse convention, faire du cash, puis bon, money grab, tout ça. Puis plus que tu t'impliques dans la communauté, plus que tu rentres, tu vois que finalement, c'est pas juste ça, t'as un élément familial avec ça, là.
Ah oui, absolument. Puis c'est vraiment la raison pourquoi je retourne à chaque année maintenant. C'est beaucoup moins les panneaux. Maintenant, c'est les gens que les rencontres que j'ai faites. Mm-hmm. Parce que les panneaux, je les ai faits la première année, la deuxième année.
Ouais.
Mais à un moment donné, tu as vu tout le monde. Puis il y a des histoires qui se répètent aussi. Fait que c'est plus pour les gens que je vais là maintenant.
OK, ouais. À part quand il y a des panneaux de Discovery.
Ah oui, oui. Donc, absolument. Là, c'est du nouveau stock, là, oui.
Ouais, donc c'est ça. Donc écoute, on va parler de quelques petites nouvelles en premier, ce qui s'est passé cette semaine. On va faire le tour des panels que tu as vus et après.
C'est beau, c'est de la visite qui rentre.
Ah, c'est bon ça. Et après, peut-être quelques petits trucs touristiques pour Star Trek Las Vegas, tes trucs de survie. Parce que je sais que le podcast Shirley va faire comme un épisode en 3 parties sur comment survivre à Star Trek Las Vegas. Il y a plein d'articles. Peut-être avoir ton avis là-dessus. Fait qu'on on va. C'est bon? Excellent.
Parfait.
Bon, fait que regarde, on va commencer avec la grosse nouvelle cette semaine. Parce que là, il y a le magazine d'Entertainment Weekly que je crois que tu. T'en as-tu ramassé des copies?
J'essaie de le trouver, mais dans le gift shop de l'hôtel où je me trouve, le Gold Coast, il n'y en a pas. Puis dans le Rio non plus, il n'y en a pas. Mais je vais faire le tour. S'il faut, je vais sortir de l'hôtel puis je vais faire une couple de dépanneurs. Là.
Ah, c'est bon. C'est ça, parce que l'Entertainment Weekly sortait avec une grosse vraiment une grosse couverture à propos de Star Trek. Et le bout de juteux qu'on ne s'attendait pas à voir, c'était un quelque chose à propos du fameux départ de Brian Fuller. Départ que, on a appris ça, je pense, en début 2016, je crois, si je me rappelle bien. On a à peine de commencer le podcast en plus. On apprend justement que la première idée de Brian Fuller était ce qui avait transpiré, ce qu'il y avait comme rumeur au départ, que ce serait une série qui voulait, lui, voulait une série d'anthologie qui se passerait, tu sais, un peu comme American Horror Story, qui se passerait à chaque saison dans une époque différente. CBS a fait comme « Wow, on va commencer par une série, on verra après ». Faut les comprendre là-dessus, considérant la pré-production nécessaire, tout le artwork, tout le travail de design de costumes, de vaisseaux, d'effets spéciaux, tout ça. Faire une nouvelle époque à chaque année, ça aurait coûté cher.
C'est tellement une idée incroyable, là, mais effectivement, ça aurait coûté cher. Juste une petite correction, JP, je pense que le départ, c'était au début 2017, pas 2016.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'en 2016, encore, moi, j'avais été à la convention de Missions New York, puis on avait eu droit à une vidéo de Brian Fuller. Mais je pense que c'est un peu plus tard.
Oui, c'est vrai. Excuse-moi.
C'est fin décembre au début du podcast.
Oui. Donc, excuse-moi, je mélange mes années. Je me pense encore en 2016. Je suis dans une anémonie temporelle. Donc, on parle ici. En fait, il y a eu vraiment un des premiers éléments qui a été nommé, ce qui était qu'il y a eu un conflit entre lui et le réalisateur David Semmel, qui a été tagué pour faire la réalisation de l'épisode pilote. Lui, Fuller disait qu'il n'était pas pantoute fait pour la job. Il aurait clashé pendant la pré-production. Et c'est ça. Donc, c'est un des premiers gros éléments qui sont venus à ça. Le deuxième, et on en avait parlé aussi à l'époque, le fait qu'il était partagé en deux séries, puis ça frustrait CBS de le voir se partager en deux grosses séries. Tu sais, c'était pas deux petites, c'était deux grosses séries majeures. On parle évidemment de American Gods et de Star Trek Discovery. Il était partagé entre les deux, surtout que les deux avaient des dates de release assez proches. C'est ça. Et c'est pas mal ça qui a vraiment comme fait en sorte qu'il a été ousté, qu'il a été sorti du projet. Ça a l'air, tu sais, je veux dire, personnellement, il y a comme une trend en ligne présentement d'haïr les studios. Je comprends la trend, mais en même temps, il faut les comprendre. Mais moi, je suis genre, essayer de comprendre les gens. Surtout,
faut que ça fasse du sens d'une question lucrative business, là, parce
c'est
que
ça,
c'est pas. Faut que ça soit viable commercialement. Là.
C'est ça. Puis surtout qu'il est en train, apparemment, que aussi, bon, comme n'importe quelle série Star Trek, apparemment, dépassait son budget, parce qu'il y avait un budget de 6 millions par épisode, qui est en train de le buster. Ça l'aide pas non plus. Donc, à un moment donné, les gens perdent patience, les studios font ce qu'ils ont à faire. Mais quand même, les Kurtzman, puis. Akiva Goldsman, on continue à répéter qu'il garde la vision, qu'il respecte la vision de Brian Fuller que la première saison va vraiment respecter ce que lui avait établi au niveau du storyline. Je suis vraiment content. Et c'est vrai, il y a aussi apparemment qu'il clashait un peu au niveau des uniformes, au niveau de ce que du look, ça ne m'étonne pas. Mais c'est ce que c'est. Puis en même temps, c'est parce que j'ai l'impression que s'il aurait encore resté accroché, on aurait entendu un autre délai. Je suis en train de. Faut se dire ça. Mais en même temps, les idées de tout changer, de changer surtout les Klingons, c'est une idée de Brian Fuller. Fait qu'imagine si ça, déjà, ça choque les Trekkies. Imagine s'ils faisaient une série qui se passe pendant TNG, puis c'était un look changé, réimaginé. Ça irait pas bien non plus. Mais, parce que c'est mon humble avis là-dessus. Mais il y a du bon, il y a du mauvais. Je veux dire, le bon, c'est justement, il a établi la base, puis maintenant, il y a du monde tout aussi qualifié que tu vas pouvoir partager avec nous, que tu as vu. Donc, surtout David, Sullivan, Ted Sullivan, excuse-moi, que je suis beaucoup sérieux, son fameux Jason Gourne.
Je l'ai vu, il se promène avec partout, dans le fond.
Oui, c'est ça.
Il était sous stage aussi pendant le panel que j'ai vu.
Oui, donc, non, mais c'est ça. Moi, j'ai confiance en ce monde-là. Ils savent ce qu'ils font. Ils suivent la vision de Brian Fuller. Puis advienne que pourra, puis c'est ça. Donc, juste avant la convention, il y avait un autre événement. C'était le Television Critics Association Press Store. Donc, on a eu le cast complet de Star Trek Discovery qui était présent là-bas pour faire partager la bonne nouvelle avec les critiques de télévision. Donc, encore un peu, beaucoup de grandes révélations. La grosse révélation que nous autres, on n'a pas en format audio encore, mais ils ont fait jouer la musique thème de Star Trek Discovery. Et apparemment que l'audience était en pleurs et très émotionnelle. Évidemment, j'ai perdu mes notes. C'est qui faisait la musique? C'était Fargo Music. Composer. C'est le créateur de Fargo, la musique de Fargo.
Est-ce qu'on sait s'il y avait des paroles?
Non.
Ça avait créé vraiment, un tollé avec Enterprise.
Ouais, non, c'est ça. Donc, excuse-moi, c'était Jeff Russo, donc c'est compositeur Jeff Russo. Est-ce que je sache, c'est vraiment juste de la musique orchestrale. Il y avait un orchestre de 60 instruments pour la musique thème. Donc, ça, c'est de bon augure. Apparemment qu'il y a des traces du thème original d'Alexander Courage. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Évidemment, c'est le genre de truc qui ne partage pas au public. J'étais un peu déçu d'ailleurs qu'il n'ait pas partagé pendant le panel d'hier, mais...
Ouais, je suis déçu aussi de pour ça. Là. On s'attendait, je pense, il y a plusieurs personnes qui s'attendaient à l'entendre. Mais peut-être dans les jours qui suivent, qui sait, ouais. Peut-être qu'ils vont nous faire une surprise.
Peut-être. Sinon, par rapport à un des petits trucs que tu nous as acheté pour moi et Pierre, donc dans les pins de fansets, donc il y a pins de Star Trek Discovery qui sont sortis, et il y en a une du Shenzhou, où on apprend quelque chose de très important pour surtout les gens de Trek Yards. Donc, le Walker Class, donc un vaisseau de classe Walker qui, si je me rappelle bien, est en l'honneur d'un pilote expérimental des années 50.
Je vais sortir la pin deux minutes pour vous la montrer, ouais. Là, juste à côté de moi. Ouais.
Donc,
je suis en train de grande discussion avec Stewart.
Ben oui.
Étant chef des communications, il faut bien que je m'occupe du réseau chat.
Aha.
Où vous pouvez toujours nous communiquer avec nous. Wow!
Donc, la belle pin de fansets. Donc, vous voyez USS Shenzhou. Donc, le matériel promotionnel de Star Trek Discovery a commencé à couler, les amis. Donc, Tecouvma, on a ensuite le capitaine
Michel Yao, c'est quoi ça?
Giorgio, capitaine Giorgio.
Giorgio, oui. Ça le dit en arrière en plus. Il y en a un autre à quelque part.
On dirait que tu as une hémorragie du cerveau, JP.
Une autre pin du logo.
Oui, le logo.
Wow. Ouais. Donc, il y a Saru à quelque part, là, mais.
C'est correct.
Il est à quelque part.
Donc, ça allait sur mon kilt, donc mon kilt qui accompagne mon uniforme. C'est rendu, c'est une belle place, je trouve, pour mettre des pins, je trouve. Il y a une rumeur qui circule fortement que je trouve qu'il y a... Saru, il est là, et voilà. Donc, c'est les mêmes, je pense que c'est les mêmes aussi qu'ils ont fait les pins pour le Star Trek Deep Space Nine, What We Left Behind. Il y avait justement un ensemble de pins pour certaines personnes qui précommandaient le documentaire sur Indiegogo. Donc, les pins, c'est toujours populaire dans les conventions. Les gens aiment ça. Ça n'a jamais perdu sa popularité, j'ai l'impression.
Puis c'est des petits objets qui sont quand même pas trop chers. C'est que c'est abordable.
Ouais.
Tu peux trouver tout dans les conventions, mais c'est quelque chose que n'importe qui peut se permettre d'acheter une pin ou deux. Là.
C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, une fameuse rumeur qui dirait que Nick Meyer serait derrière un projet de faire une mini-série de Khan sur SETI Alpha 5. Bon, la nouvelle vient d'un site qui ne cite pas de source et tous les autres articles mentionnant ça mentionnent ce site-là. Donc, ça prend un grain de sel. Nick Meyer a répondu à cette rumeur-là en disant que « I can not make any comment ». Ceux qui le connaissent, donc, il est très fort sur les jeux de mots. Un petit peu douteux. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Je pense que c'est peut-être juste du monde qui sont dit « Bon, il a dit... » Donc, justement, Nick Meyer avait dit qu'il travaillait sur quelque chose d'autre. Probablement une autre série. Fait que les gens se sont dit, bon, Nick Meyer, Star Trek 2, égale Khan. Je pense que c'est une déduction facile à faire, à savoir si elle est juste. Le temps nous le dira, mais toi, Marc, qu'est-ce que tu penserais d'avoir une mini-série de Khan sur SETI Alpha 5?
Ah, moi, tant qu'il y a des séries... T'sais, on n'a plus rien depuis quoi, 2003?
2005,
hein, ouais, mon Dieu. Je savais pas que ça avait duré jusqu'en 2005. J'étais sûr que ça avait fini en 2003.
C'est juste là que c'est probablement juste là que t'as arrêté de regarder.
non, mais je les ai écoutés jusqu'à la fin, mais ouais. C'est juste que 2005-2003, c'est quand même proche. Non, mais avoir le plus possible. C'était le fun quand on avait au moins deux séries à l'époque ensemble. Ouais. Quand on avait TNG, puis qu'on avait DS9 ensemble. Puis tout de suite après, repris par Voyager, quand TNG a arrêté. C'était le fun.
Ouais.
Mais moi, que ce soit... Maintenant, de toute façon, c'est la mode est au spin-off. Là. Chaque série a son spin-off. Pourquoi pas en avoir un autre,
surtout une série? Surtout que sur Star Trek... pas sur Star Trek, sur CBS All Access... Un des premiers programmes à avoir vu le jour, le premier programme original sur leur plateforme, c'est The Good Fight, qui est un spin-off de The Good Wife. Et quand on parle de spin-off de nos jours, on peut penser aussi à Fear the Walking Dead, qui accompagne The Walking Dead.
À Better Call Saul.
Oui, Better Call Saul, mais ouais, c'est comme un sequel, prequel.
Ouais, mais c'est quand même un spin-off.
Ouais, c'est un spin-off en tant que tel. Mais c'est ça. Donc, on va voir. Il y a des gens qui disent qu'on serait peut-être en train de revenir dans un nouveau Golden Age Star Trek. Toi, qu'est-ce que tu le sens, toi, à Las Vegas présentement?
Il y a beaucoup d'enthousiasme. Je dirais que. Il y a eu des. Pendant les panels que j'ai faits, il y a quand même des portions, des opportunités de poser des questions aux différentes personnes. Mm-hmm. Il y a des gens qui étaient plus du côté réticent, qui voulaient avoir des assurances que le Star Trek tel qu'on le connaissait n'était pas perdu. Puis je pense qu'ils ont fait une bonne job à réassurer les gens. Puis je dirais que le vibe général, c'est positif. Puis les gens sont excités, ils veulent voir qu'est-ce que c'est, comme tout le monde. Là. Ouais. Mais je pense que c'est plus du côté positif. Là. Les gens avec qui j'ai parlé, les gens que j'ai croisés, ouais. Très peu de personnes m'ont parlé là, vraiment de façon négative. Là. Je pense que les gens qui sont négatifs sont en minorité. Ils sont très vocaux, mais je pense pas que ça représente la majorité.
Bon, ben c'est bien à entendre parce que c'est vraiment sur le plancher qu'on peut vraiment sentir. Parce qu'en ligne, comme je le disais souvent, c'est les gens qui sont pas satisfaits qui vont s'exprimer le plus. Tandis que le monde qui apprécie, ben ils vont regarder ça, ils vont trouver ça cool, puis ils vont attendre en septembre. T'sais. Donc... Fait que c'est vraiment dans ce genre d'événement-là qu'on peut vraiment le savoir. Donc, moi je suis content que tu me dises ça parce que, justement, j'étais un peu inquiet. Moi, ce que je trouve un peu peut-être pas nécessairement dommage, c'est qu'il y ait mis tous les panels de Discovery comme la journée, le mercredi. C'est
C'est intense, vraiment. C'était beaucoup. Puis le dernier panel qui a commencé à 5h30, heure de Las Vegas, puis qui a fini à 6h30, il y a beaucoup de monde qui était parti là, parce qu'ils ont eu leur dose. Là. Puis pourtant, c'était un des panels les plus intéressants. Puis il aurait dû éparpiller ça peut-être sur plusieurs journées ou deux jours au moins. C'était beaucoup, puis il n'y avait pas de pause pour aller à la toilette. Là. c'est ça qui était tough. Là.
Ouais. Ben, faut dire aussi, la série est encore en production, fait que je sais justement qu'ils n'ont pas pu avoir les acteurs parce que ils étaient en train de travailler. Fait que, en tout cas, ils n'ont pas pu avoir la majorité des acteurs parce qu'ils étaient en train de travailler. Même Ted Sullivan, je pense qu'il faut qu'il retourne à Los Angeles pour le travail aujourd'hui. Donc, c'est ça. Faut quand même se rappeler que. Ils sont encore en production.
Ouais.
Peut-être l'année prochaine, ça va être plus smooth, là. On verra. Sinon, c'est pas mal ça. Donc, on peut commencer. On va commencer à parler des panneaux. Parce que, parle-nous un peu. C'était toute une aventure déjà pour toi de te rendre à Las Vegas.
Oui, effectivement. Là, mon premier vol était cancellé. Ils m'ont rebooké. Ça a été retardé. Finalement, je suis arrivé à Las Vegas à 5 heures du matin. J'étais supposé arriver à 10 heures le matin, mais je suis arrivé à 5 heures du matin pendant la nuit le lendemain, exactement. Mais je me suis rendu 3 heures, 2 heures et demie, puis après ça, c'était la journée Discovery. Fait que le premier panel de Discovery, c'était sur les auteurs, en fait.
Ouais.
Pardon,
les scripteurs.
Les writers, les scripteurs, exactement. Donc, c'était vraiment beaucoup, je pense que je l'ai mentionné aussi sur un des posts, mais il y avait beaucoup d'emphase qui avait été mis pour rassurer les fans que les gens qui étaient chargés de scripter c'était des fans et qu'ils avaient de l'expérience pertinente dans Star Trek avec des backgrounds importants. C'est tous des passionnés qui voulaient rendre justice à la franchise et qui n'allaient pas violer le canon. Qu'est-ce qu'on a dit? Le mot qu'on a utilisé, c'était adaptation, pas reboot, mais c'est une adaptation parce qu'il y a des changements. On a insisté sur le fait là, que c'est une émission de science-fiction comme on n'a jamais vu à cause de l'ampleur que ça prend. Mm-hmm. La production, il y a d'autres éléments qu'on va voir tantôt aussi, comme par exemple pour les costumes, tout ça. Là. Mais c'est quand même quelque chose c'est une nouvelle façon d'approcher Star Trek au niveau de la production. Donc, il y avait beaucoup de... Parce que justement, il y a des fans qui sont inquiets. Donc, on a essayé de rassurer les gens. On a aussi fait des distinctions avec le Star Trek du passé. Les divergences avec le passé. Puis, on a parlé, puis je pense que ça avait déjà été parlé ailleurs, là, mais il va y avoir des conflits entre les personnages de Starfleet.
Le fameux Roddenberry Rule qui a été comme mis de côté.
Oui. Et on a justifié ça en disant que c'est pour apporter plus de profondeur au personnage.
Ouais.
Donc, c'est un petit peu bizarre que dans la Fédération, tout le monde s'entende bien.
Puis,
la réalité, c'est qu'il y a, il y a de la compétition, il y a des gens qui veulent avancer, il y a des gens qui descendent, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Donc, on voulait essayer de montrer plus ce côté-là. On nous a réaffirmé qu'il allait y avoir certains conflits entre les personnages.
Ouais.
Et on nous a confirmé qu'il y a des éléments de Star Trek qui vont continuer comme avant, comme par exemple le Techno Babble.
Ouais.
Il y en a beaucoup dans Discovery, il va en avoir encore. Ça fait qu'il n'enlève pas ça. Je pense que Voyager, il y en avait vraiment beaucoup, là. Mais là, il va en avoir. C'est les fans qui aiment le Techno Babble, ils vont être rassurés de savoir que ça revient. On nous a aussi. Il y avait
Ça, il mentionnait aussi que. En fait, je ne sais pas si c'était pendant le panel des auteurs ou des acteurs, mais qui mentionnait qu'on allait avoir comme le conflit envers les Klingons, mais de deux points de vue différents. Il n'y aura pas de méchant, oui. Méchant.
Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est dans le panneau qui était juste après. Mm-hmm. Ils vont essayer de... En fait, il y a une partie significative de la narrative qui va être du point de vue des Klingons.
Okay.
Et ils veulent pas, justement, c'est plus nuancé que c'est des méchants, c'est des gentils. Là. Ça va vraiment être... je pense que je vais revenir aussi un petit peu tantôt avec l'autre panneau, mais c'est plus nuancé que ce que les gens pourraient penser juste en voyant l'allure des Klingons, puis comment le vibe qui est dégagé de ça, là, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Puis, c'était pas mal ça pour ce panel-là. Il y a peut-être un petit peu plus sont allés en détail sur certains personnages, comme par exemple Stamets. Lui, son développement initial, en fait, dans le pilote, il va avoir un certaine façon de se comporter qui va changer à travers les épisodes. Mais on nous dit que sa personnalité, c'est une personnalité qui va pousser beaucoup les gens. Personality that pushes people away.
Oh.
Ça nous a donné un petit brin d'informations sur le développement de son personnage. Mais que, encore là, son personnage du pilote, puis son personnage dans les épisodes qui vont s'en suivre, va changer beaucoup. Alors, c'est un petit brin d'informations qu'on nous a donné sur lui. Mm-hmm. Et comme on le savait déjà, ou comme ça a été confirmé que l'émission prend place au milieu d'une guerre soudaine.
Okay.
Donc, il ne s'attendait pas à ce conflit-là, puis tout d'un coup, il y a un conflit, ça, on a juste stressé là-dessus. Puis, je regarde mes notes, parce que mes notes sont sur, comme j'ai dit, là, c'est tout désorganisé. Là.
Mais c'est quand même, ils mentionnent aussi, ils ont rassuré les gens, c'est dans la timeline originale, ce n'est pas dans le Kelvin timeline, ce n'est pas dans une autre timeline, ce n'est pas...
Ouais.
Ça se passe vraiment aucun... N'espérant aucune poudre aux yeux, vraiment, 10 ans avant TOS, 2 ans après, techniquement 2 ans après The Cage, 10 ans avant la première saison de la série originale. Donc.
Ouais. Je peux passer à l'autre panel qui a suivi après, ouais. Donc, celui-là sur les acteurs qui étaient présents. Donc, on avait deux Klingons, El Rel et Cole.
Oui.
Et on avait le medical officer, le nom m'échappe. Joué par Cruz, son nom de famille Cruz. Et on avait aussi le jeune Ensign.
Sam Vartalo-Emos.
Exactement. Donc, les quatre étaient là. Ils ont parlé, en fait, ils ont tenu à mentionner aux gens qu'ils ont regardé beaucoup de Star Trek.
Mm-hmm.
Et Mary, celle qui joue Elrel, elle a regardé tous les épisodes avec les Klingons.
OK.
Donc, il y a eu ça dans sa préparation. Et Cole aussi, il a vu beaucoup de... ils ont vraiment voulu étudier la race, même s'ils vont avoir des différences, là. Mais ils ont un background assez approfondi là, sur qu'est-ce qui est venu avant. Okay? Ça, il y a un intérêt. Et tous les acteurs étaient intéressés par Star Trek. Là. Cruz aussi, lui, ça a l'air que c'est un grand fan de Next Generation et de TOS. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui était impressionnant, c'était justement... Les acteurs qui jouent L'Rel, les deux Klingons, finalement, là, ils ont vraiment impressionné la salle parce qu'ils ont sorti ils ont fait un display de Klingon skills.
Okay? Oh, oh!
Ils ont commencé à parler en Klingon et
c'était convaincant.
Très. puis il n'y avait pas aucune prosthétique là, sur eux. Là.
Wow, oui.
Mais disons qu'ils l'avaient vraiment, puis ils ont gagné la foule là, juste en faisant ça. Puis aussi, oui. Nous ont parlé de comment ils faisaient pour apprendre à parler Klingon, parce que, comme on le sait, c'est du vrai Klingon qui parle. Oui. C'est, ils ont des gens qui les appuient à dire les bonnes choses, puis c'est pas juste des termes qui sont lancés comme ça, c'est basé sur la vraie langue du Klingon. Là.
De Mark Oakrand, oui.
OK. Et dans le fond, c'est beaucoup de mémorisation parce que, comme on sait, ça va être sous-titré en anglais. Oui. Pour la plupart. Donc, c'est incroyable la complexité. Et ils apportent beaucoup de détails dans la prononciation, les subtilités, toutes les subtilités de prononciation puis d'intonation.
Ouais.
Puis, je pense que Mary disait qu'elle serait presque intéressée, si elle avait le temps, à apprendre pour de vrai le Klingon. Donc ça, c'était intéressant.
Ouais.
Ça, et Cruz, oui.
Ben, c'est ça, ils ont un speech coach vraiment. C'est ça.
Ouais.
Ben, je pense qu'il disait que c'est la numéro un en speech coach Klingon en Amérique du Nord. Donc, c'est pas n'importe quoi. Là.
Un autre moment qui était vraiment drôle, c'était... l'acteur Cruz,
ouais.
Lui qui joue l'officier médical, il nous a parlé de l'utilisation des props comme le hyperspray. Mm-hmm. Et il s'est trompé, il a dit hyperspray, quelque chose comme ça. Là, la foule l'a pas pris. Là. C'est comme, c'est quoi? Comment ça que tu sais pas comment ça s'appelle? Puis le monde était inquiet. Mm-hmm. Puis là, ben, il a dit « Donnez-moi une chance, là. C'est ma première convention, puis si vous voulez que je revienne, là. » mais c'était juste drôle, puis la foule est allée en délire, là, riait, là, parce que c'était juste c'était drôle. Il savait clairement c'était quoi, c'est juste il avait dit quelque chose de pas rapport. Là, c'est que...
Et la piste, ça arrive souvent.
Ouais.
Ça, c'était le deuxième panel de Discovery. Mm-hmm. Je peux aller enchaîner avec
ouais,
le
oui, troisième, vas-y, enchaîne.
Si vous voulez. Ouais. Ouais, donc, le troisième, c'était sur les créateurs des créatures
ouais.
de Discovery.
Neville
donc,
Page.
Ça, c'était... Oui. Neville Page et Glenn Hendricks.
Glenn Hendricks.
Yeah. Ouais. Mm-hmm. Donc, eux, dans le fond, ils nous ont parlé de la façon révolutionnaire ouais. qui est maintenant avec l'impression 3D. Mm-hmm. Et c'est ça qui a permis, ça a complètement changé la donne, puis ça a ouvert des nouvelles possibilités pour le détail qu'on voit, surtout pour les costumes de Klingon et les props de Klingon. Donc, ouais. c'est des détails qu'on n'a jamais vus avant, qui n'auraient pas été possibles avant. Avant le 3D, l'impression 3D.
Ouais, ouais.
Donc, c'est une des raisons pourquoi que aussi les Klingons ont l'air aussi différents. C'est parce qu'ils ont voulu rehausser le détail et donc, c'est comme un upgrade aussi.
Ouais.
Mais c'est pas la seule raison. On verra un peu plus tard.
On a vu comment de Klingon dans tous les épisodes, en cinquantaine, à peu près.
Peut-être un peu plus, là, mais ouais.
Peut-être un peu plus. Hey, comment on est, nous autres, sur notre planète, pas loin de 8 milliards? Tu sais, eux autres ouais. sont peut-être proches de ça aussi, là. Ouais, c'est normal d'avoir des différents.
Mm. En même temps, c'est ça. Tu sais, ils ont plus de moyens, ils s'en permettent plus. Puis c'est s'il n'y aurait jamais expliqué dans... Star Trek Enterprise, je pense que ça aurait été moins pire.
Ouais.
Mais vas-y,
c'est ça qui a tué.
donc, c'est ça. Puis, ben, justement, aussi les différentes maisons, les ouais. différentes houses de
24
Klingon.
24 différentes houses of Klingon.
Ouais, 20 quelque chose. Aussi, ça explique pourquoi ils peuvent avoir l'air différents, tant au niveau de l'habillement que les apparences physiques. Là.
Ouais.
Et puis, justement, on a mentionné par rapport au Ridge, qui vont... Ridge, je sais pas comment on dit en français.
Ben,
Les crêtes. Qui vont jusqu'au derrière de la tête. Là.
Ouais.
Puis on nous a dit que c'est parce que ces crêtes-là ont des capacités
sensorielles.
Oui, sensorielles. Puis c'est pour ça qu'ils n'avaient pas de cheveux, ces Klingons-là. Donc, c'est la raison qu'on nous a donnée. Ça,
j'ai hâte de voir crêtes. Ce que ça va donner.
Et puis, aussi, on est rentré un petit peu plus dans les détails. Je pense que je l'ai posté là, aussi sur une des photos, comme quoi que le Torchbearer Suit, le genre de combinaison spatiale pour les Klingons. Sur le côté, il y a tellement de détails, mais les petits trous qu'on voit, c'est comme pour propulser, c'est pour qu'ils avancent.
Puis même, il y avait des espèces de crêtes, puis c'était comme des espèces de Klingons en croix.
C'est ce qu'on nous a expliqué.
En croix à l'envers, là.
On nous a expliqué que c'est le symbole Klingon, finalement, et qu'ils ont voulu émuler, là, répliquer avec ça. Donc, c'est encore là, c'est des détails qui n'auraient pas été possibles de faire sans l'impression 3D. C'est pour ça que ça a l'air tellement, c'est tellement détaillé maintenant.
C'est tellement beau.
Il faut dire aussi, c'est probablement filmé genre en 4K, puis ça...
Exactement. Exactement. On nous a pas dit... Ben c'est ça, c'est parce que avec la télé HD, puis on présume que c'est filmé en 4K ou
mais ils veulent pas faire l'erreur qu'ils ont faite avec les autres séries. Là.
C'est ça.
Oui, non, mais c'est ça, on est rendu là. Puis c'est comme justement sur un écran, on voit tous les détails, donc pourquoi pas en profiter pour voir tous ces détails-là.
Déjà, quand on est passé en HD normal, il y a 10-15 ans, ça a créé un changement parce que justement, il fallait que tout soit plus beau. Fait imagine quand on passe en 4K, parce que 4K versus HD, c'est pas deux fois plus gros, c'est comme quatre fois plus gros. Ça y va en manière exponentielle. Fait que c'est encore plus de détails qu'il faut mettre devant le camp. Parce que ce sera peut-être pas diffusé en 4K pour l'instant, mais il va sûrement avoir des releases, comme pour Star Trek Enterprise, dans le futur. La première saison n'a pas été diffusée en HD. Mais elle a été filmée en HD pareil. Fait que quand ils l'ont sorti en DVD, il était disponible.
C'était facile, c'est facile de transférer, c'est ça.
C'est ça.
Je pense même que c'est la première série qu'ils ont sorti en Blu-ray en HD parce que c'était déjà fait.
C'est ça, exactement.
Ouais.
Fait que. Donc, c'est ça. Puis, je pense qu'on oublie un petit détail par rapport à Cole. On a appris de quelle maison Cole faisait partie.
Donc, oui.
La
maison. Oui. J'ai oublié le nom, là, mais...
The House of Kor, donc.
Oui.
C'est évidemment en lien à Kor, le personnage joué par John Koulikos dans Deep Space Nine et dans la série originale. Donc, à savoir, j'espère qu'on va faire un lien avec le Kor qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a connu au cours de la série. En tout cas, personnellement, je le souhaite. Mais donc, Cole, pour l'instant, est le leader de la House of Kor. Donc, et on a vu vraiment, son accoutrement était vraiment différent de ce qu'on avait avec The House of Tekuvma. Donc, House of Tekuvma, c'était vraiment comme... C'était
un peu métallique.
Ça faisait penser à comme ce Dragon Armor dans Skyrim.
Oui, OK.
Armure qui n'a jamais été changée depuis le début.
Puis, quand on voit justement Cole... On voit vraiment quelque chose qui est plus avec... Je pense qu'il y a une cape en fourrure avec... c'est vraiment plus du...
plus comme, primaire, primal.
Ouais, un peu plus du plus de cuir et du métal peu. Mais...
Ouais.
Ça passerait comme un... Pour moi, je verrais ça comme... Dans un grandeur nature, je mettrais ça sur un noble. Sur un noble dans une série médiévale, ça passerait comme pas pire comme noble.
On fait bicoline avec une armure Klingon.
Ben, je veux dire, c'est ça. Les nouvelles armures Klingon passeraient beaucoup mieux dans une grandeur nature. Autant pour le bien que pour le mal, mais c'est ça. Donc, c'est pas mal. C'est, ça coûte pas mal ton
ben,
troisième?
Il y a un dernier panel qui manque. Là. Donc, c'était celui-là concernant les auteurs des romans et des comics qui vont être sortis en parallèle. Donc, on nous a confirmé que c'est entièrement intégré. Mais en fait, c'est touché parce que quelqu'un qui a posé la question, est-ce que c'est considéré canon maintenant? Puis ils n'ont pas voulu répondre vraiment. Là, ils ont gardé ça un petit peu. Parce que l'affaire, c'est que c'est complètement intégré à la salle des descripteurs de Discovery. Et il y a beaucoup d'échanges entre ces deux groupes-là. Donc, ils ont accès aussi à tous les matériels pour faire leur travail, les scripts. En fait, ils reçoivent même les scripts de l'émission pour pas qu'il y ait de conflit et pour que ça jive, là, parce qu'il faut pas qu'ils disent des affaires pas qu'ils s'empiètent aussi.
Bon, si ça veut genre dire que le livre va sortir en fin 2017, faut quand même que l'histoire s'est passée pendant qu'ils le sortent. Genre, s'ils en parlent dans le livre.
C'est ça.
Oui, ben c'est justement pour le premier livre qui va sortir. C'est Desperate Hours, là. C'est David Mack. Et puis, il nous a dit que... Bon, mais justement, ça sort deux jours après que le pilote va jouer sur CBS All Access. Et on nous a parlé que c'est les grandes lignes, là, c'est une colonie de la Fédération qui se fait attaquer. Et ça prend place un an avant le pilote de Discovery. Et puis, il va y avoir beaucoup d'éléments de Cage. Ah. Et on a fait allusion qu'on allait voir l'Enterprise. On n'a pas dit Enterprise, mais. Puis c'est justement, je vais essayer de m'entretenir avec David Mack dans les prochains jours. Juste pour qu'il nous donne un petit peu plus de background. Mais je pense qu'il va pouvoir donner l'information parce que semblerait que la description du roman qui figure à Lando va être released, va être
diffusée. Oui, je l'avais vu en ligne. Mais ce que tu as dit, c'est pas mal ce qui était en arrière. Donc, c'est ça. C'est un Commander Burnham qui doit sauver une colonie d'une ancienne race, ce que j'ai lu.
OK. Puis, il a dit que c'était Brian Fuller qui avait demandé cette mise en scène pour ce premier livre avant qu'il quitte. Donc, ça fait longtemps que c'est dans le pipeline. Là. Ouais. Ça fait longtemps qu'il planifie ça. Et puis, que c'était une tentative de jumeler le Star Trek de la série originale avec ce Star Trek-là. Donc, c'est pour ça qu'ils vont essayer de comme intégrer ça d'une façon. C'est pour ça qu'il y a fait allusion à l'Enterprise et à The Cage. Mm-hmm. On verra là, de quelle façon qu'ils vont faire ça.
Oui, non, je suis vraiment curieux. Deuxième, là, on a appris quelque chose de très intéressant, justement, pour le deuxième roman.
Oui, donc c'est Dayton Ward qui va l'écrire. Ouais. Et puis, ça va sortir au début de 2018. Mm-hmm. Et celui-là va se passer 10 ans avant les événements de Discovery. Et ça va utiliser un événement qui a été établi dans le canon.
OK. Toujours pas plus. Ouais. Là, c'est encore un peu loin.
Mais c'est ça. Mais justement, comme j'ai mentionné, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que ça devient canon, ces romans-là? Parce qu'on sait que toute la littérature n'est pas considérée canon. Ouais. Et on a dit, la réponse était qu'ils voulaient pas « they did not want to commit » parce que ça... En tout cas, il n'y a pas de réponse finalement.
OK. Justement, parlant de Dayton Ward, j'ai reçu ça aujourd'hui. Donc, j'ai reçu le Vulcan et le Klingon Travel Guide. Justement, par Dayton Ward. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ça. Et peut-être l'année prochaine, justement, me les faire autographier. Donc.
Ça, peut-être. Ben peut-être. Oui,
ben là, si lui est là, ben là. Tu sais. troisième grosse nouvelle, IDW. Donc, au niveau des comics?
Oui, oui, c'est ça. Donc, les comics, on nous a confirmé que le premier comic va porter sur les Klingons et pas juste n'importe quel, sur Tecouvma. Donc, ça va être un focus sur lui en particulier.
Okay.
On n'a pas vraiment donné de détails, sauf que ça va sortir à la fin octobre.
OK. Fin octobre, bon, c'est bon. Fait qu'on peut déjà sûrement précommander. Je sais qu'on peut déjà précommander le livre de David Mack, le boutique, le livre de IDW. On peut certainement aller le précommander dans vos boutiques de comics préférées. Sinon, ben écoute, ça fait que ça couvre pas mal les quatre panels que tu as fait en rafale avec une pause pipi.
Ouais. Ouais.
Encore un gros merci pour ton sacrifice. C'était quand même.
Bon, moi, plaisir,
c'était la journée, j'imagine, la journée la plus tranquille de la convention. C'est la première, c'était le mercredi.
Oui, oui, c'est étrange aussi qu'il ait décidé de faire. Ben, c'est peut-être question de disponibilité des acteurs et de tout le monde. Parce que le mercredi, normalement, c'est la journée la plus tranquille.
Ouais.
Donc, c'est ça. Il aurait pu étaler ça, ça aurait été mieux, mais peut-être c'est des contraintes logistiques qui ont empêché ça.
C'est vraiment l'impression que j'ai aussi. Mais au moins, c'est fait. Les gens, on a encore une petite coche plus d'informations pour nous tenir en haleine jusqu'à dans un mois et demi. Parce que ça arrive très bientôt. On va bientôt commencer à compter les dodos. sinon, ben écoute, parle-nous un peu justement de Star Trek Las Vegas, tes survival tips un peu, parce que comme je disais, il y a beaucoup de gens qui peuvent en écrire long à propos de comment survivre à Star Trek Las Vegas, mais je veux ton avis là-dessus.
Ouais, ben il y a plusieurs façons d'approcher la convention. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont ici pour voir les acteurs, les panels, puis qui vont être satisfaits avec ça. Il y a des gens qui vont pas voir aucun panel parce que les autres c'est le cosplay, puis c'est les gens qui sont sur place qui les intéressent. Ça fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi je dirais comme le type numéro un, c'est de faire de la convention qu'est-ce qu'on veut en faire. Puis il y a plusieurs options pour tous les budgets, pour tous les goûts. Moi, je reste présentement au Gold Coast, qui est un hôtel juste l'autre côté de la rue du Rio, qui est une fraction du coût du Rio. Qui est très bien. En fait, c'est même les chambres sont beaucoup plus belles que celles du Rio.
Oh.
C'est rénové. Le Rio, c'est un bel édifice. À côté de quoi?
Fremont Street, je pense.
Ah, non.
Non, c'est l'autre bord.
Ben, peut-être que ça se poursuit, Fremont. Là. Honnêtement, quand je suis ici, je ne sors pas de l'hôtel beaucoup. Mais à part pour aller au Rio, qui est l'autre bord de la rue.
Mm-hmm. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Fremont Street, c'était la strip à l'époque.
Ouais. Ben,
avant que la grosse trip arrive. Les gros hôtels.
Donc, le Rio, dans le fond, c'est un hôtel qui est off-strip, qui est l'autre bord de le genre d'autoroute qui sépare la strip. Et c'est l'autre bord de...
OK, qui était l'autre bord, c'est beau. Okay.
Ouais, c'est l'autre bord du Caesars. Donc, c'est très proche du Caesars, mais c'est l'autre bord de l'autoroute.
Et Fremont, c'est l'autre côté.
OK. Et puis, pour le Gold Coast, ben, c'est l'autre bord de la rue du Rio.
Okay.
Donc, tout est très proche. Et même pour la nourriture est très bonne au Gold Coast et très pas chère.
Ah, okay.
Et c'est pas le cas au Rio. Au Rio, c'est dégueulasse, puis c'est cher. Fait que la première année, je suis resté au Rio. Puis j'ai détesté ça. Les chambres étaient vieilles, pas rénovées, puis ils n'ont pas encore rénové les chambres. C'est étrange parce que c'est un hôtel qui est plus récent, mais on dirait qu'ils ont mal entretenu pour les chambres. Il y a les ascenseurs brisent tout le temps. Puis même cette année, j'ai des gens qui me disent que l'ascenseur, en tout cas, c'est des détails, là, mais c'est juste pour dire qu'il y a vraiment une bonne valeur à l'hôtel qui est juste au bord de la rue.
Okay. Ça, 50 piastres la nuit, quelque chose comme ça?
Oui, en fait, comme ce soir, ça dépend des nuits.
Ouais.
La fin de semaine, c'est un peu plus cher. Mais aujourd'hui, je pense que c'est 40 $ la nuit. Puis le buffet, il est américain. Ouais.
Ouais.
Le buffet, il est excellent. Puis le déjeuner, il est 10 $ Il est 9,99 Puis tu manges là, puis tu es correct pour la journée. Là. C'est incroyable.
tu conseilles-tu d'aller visiter d'autres choses ou de rester dans la convention en tant que telle?
Ben, moi, je suis déjà venu à Las Vegas avant. C'est que j'ai eu la chance de visiter Vegas par avant. Mais je dirais qu'il y a tellement d'activités qui se passent en même temps pour la convention, les activités officielles et les activités non officielles, que tu peux juste faire des activités de la convention, puis je veux dire, tu ne vas pas t'ennuyer. Il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est que si tu veux visiter Vegas, ça va être difficile de le faire pendant la convention. T'es mieux de venir quelques jours avant ou partir quelques jours plus tard pour avoir la chance, parce que pendant la convention, tu ne vas pas vouloir faire autre chose. Il y a tellement de choses à voir et ici même que...
De toute façon, nous autres, c'est sûr qu'on va tout faire.
Ben oui. Fait que mon
donc,
rêve,
c'est ça, pour l'autre.
Ouais. Fait que mon rêve de pouvoir aller dans la convention sans mettre en robe de chambre, je vais attendre une couple d'années encore.
Ben, on sera riche, c'est le faisant.
Ben, il y a des tarifs réduits qui sont offerts par Creation, l'organisateur de la convention, qui sont quand même relativement abordables, mais c'est quand même les tarifs du Gold Coast, c'est une fraction du prix des tarifs réduits.
Puis en ce que le Rio, il y avait des resort fees aussi, apparemment, qui n'étaient pas nécessairement inclus sur la facture, donc faire attention.
Ouais. Faut savoir que tous les hôtels à Vegas ont des resort fees, incluant le Gold Coast. Mais le Gold Coast, c'est un frais de 10$ par jour. Il y a des hôtels que c'est 40$ plus par jour, additionné sur le tarif de la chambre de la nuitée. Ouais. Donc, les hôtels, c'est une façon qu'on peut économiser puis qu'on peut adapter tout dépendant de l'expérience qu'on veut avoir. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas rester au Gold Coast parce que, comme par exemple, leur cosplay est complexe.
Ouais.
Et ils ne peuvent pas sortir de l'hôtel, même juste traverser la rue. Il faut savoir que le jour à Las Vegas, il fait comme 40 degrés à l'ombre. C'est pas possible quand tu as des prosthétiques ou des costumes élaborés. Tu ne peux pas sortir de l'hôtel, même juste traverser la rue, c'est impossible. Tu n'as pas le choix de descendre de l'ascenseur directement sur le site. Là.
Okay. Mm. Sinon,
donc, c'est ça, l'hôtel...
Donc, c'est ça. Donc, excuse-moi de te couper. Vas-y, continue.
Ben, c'est ça. L'hôtel, c'est une façon qu'on peut adapter son expérience à ses besoins. Et puis, c'est ça. L'horaire en tant que tel de la convention sort quelques jours avant. Donc, les gens ils ont la possibilité de choisir qu'est-ce qu'ils veulent voir parce qu'il y a plusieurs ateliers qui ont lieu au même moment aussi. Il y a deux salles principales. Et il faut faire des choix, des fois, qui peuvent être déchirants. Mais donc, il y a les deux salles avec des activités en simultané, des ateliers. Il y a le Vendor's Room qui est immense, qui est toujours ouvert. Oui, c'est ça, c'est lui que j'ai montré. Mm-hmm. Il y a plein d'autres petits salons avec des expositions. D'ailleurs, il y a l'exposition des items de Discovery que j'ai pas pu faire aujourd'hui parce que j'ai pas eu la chance. Puis il y avait beaucoup de monde qui attendait pour rentrer là-dedans. Ils laissaient juste rentrer certaines personnes à la fois pour pas que ça vire en bordel. Mm-hmm. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire en parallèle de les conférences elles-mêmes. Puis ça, c'est les activités officielles, parce qu'il y a toutes les activités non officielles, des petits groupes qui se rencontrent pour toutes sortes de...
C'est ça. Moi, j'avais
vu... Des sous-groupes. Là.
C'est ça. J'avais vu, en mettant un photoshoot de ceux qui ont les uniformes de Wrath of Khan, puis un autre photoshoot pour tous ceux qui ont les uniformes de Grey and Black Attack, ou donc les uniformes que moi, j'aime, donc les noirs et les gris de Deep Space Nine. J'ai vu ça sur le mur du très célèbre Gabriel Charles Corner. Donc, ceux qui ont vu le film Trekkies, c'est lui qu'on peut voir dans ce film-là, entre autres.
Je ne l'ai pas vu, lui. Ça donne que des fois, je vois des gens comme constamment. Je les vois, je ne sais pas combien de fois par jour, puis il y a des gens que je vois juste pas parce que le timing n'est pas bon. Comme Paul Forrest, j'ai essayé de le voir, puis je ne l'ai pas vu encore, mais il est là.
C'est ça.
Puis pourtant, il est tellement grand que je devrais pouvoir le voir assez facilement. Ouais, mais j'ai pas encore entré dans le musée.
Il n'y a pas de kiosque cette année?
Non, okay. Non, j'ai pas vu une présence permanente.
C'est bon, de façon, c'est ça. Donc, sinon, ben c'est ça, il y a trois types de badges. Toi, cette année, tu as fait une exception, tu as pris le Gold Badge, tu t'es fait,
tu t'es
fait mettre un peu de pression.
Ouais. Honnêtement, moi, j'ai toujours fait l'admission. En fait, la première année, j'ai fait admission générale. Après ça, j'ai fait Copper. Je pense qu'ils ont rebrandé les noms. Là. Ouais. Mais j'ai jamais fait le Gold. Et puis, j'ai un ami qui m'a dit on devrait essayer Gold. Puis, moi, personnellement, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Du tout. La valeur n'est pas là. Juste pour donner un exemple, puis c'est peut-être une mauvaise expérience que j'ai eue, mais il y a des autographes qui sont inclus avec cette passe-là. Mm-hmm. Et hier, il y en avait trois. Il y avait Nana Visitor, René Aubergenois.
Ouais.
Je ne sais pas son nom de famille.
Aubergenois, oui, c'est ça. Oui.
OK. Puis il y avait Scott McDonald, okay, qui a joué Zindi, entre autres, dans Enterprise, puis qui a joué... d'autres rôles. Mm-hmm. C'est à 6h30 qu'on avait rendez-vous pour les autographes, mais ça a pris 3 heures, passé 3 heures pour qu'on aille nos autographes, puis c'était mal organisé. Là. Ça a l'air que c'était un nouveau système cette année, mais en tout cas, c'était vraiment un fail. Là. Mais moi, c'est des choses qui m'intéressent moins, les autographes, honnêtement. Ouais. Ça fait que pour moi, le gold, c'est pas vraiment... Il y a des avantages, comme ce soir, on a un party privé pour le Gold qui va être sur le toit du Rio avec un band, puis la nourriture, tout ça. Puis ça, c'est un party exclusif pour les Gold.
Quand même. Bon,
c'est les affaires de même. Ouais.
OK. Bon, sinon, c'est ça. Toi, l'année prochaine, tu reviens au...
Ouais, absolument. L'admission, le week-end package, là, qui est bon pour les 5 jours de la convention, c'est juste parfait. Ça donne accès à tout, sauf les parties exclusifs. Puis s'il y a des autographes qu'on veut vraiment, on peut toujours les acheter à la carte.
Ouais. C'est ça, exactement.
Ouais. Espérons d'avoir une passe l'année prochaine, PACE.
Ben non, mais je pense pas que...
On peut rêver, JP. T'sais, on va peut-être avoir 20 000 personnes comme membres l'année prochaine.
Mais sinon, la passe Copper était 300 quelques dollars normalement?
Ouais, je pense que c'est 330. Cette année, c'était un peu plus cher, c'était 330. Okay. Mais dans les années précédentes, c'était 250 à peu près. Là. Ouais.
Attendez-vous à payer un bon 300. Toi, ta passe Gold, tu l'as payé quoi, le double, 600?
Je ne sais même pas. Je pense que c'était 900 quelque chose.
Oh my God! Wow!
Ouais, puis US. US, hein?
US dollars.
Ça fait mal. Puis quand je l'ai acheté, le dollar canadien était très bas. C'est que là, ça a remonté un peu depuis, là, mais ça fait mal. Ça fait
on en gardera Copper.
Ouais, je pense qu'on va rester au Copper. Donc, un beau petit package qui en vaut la peine. C'est ça. Sinon, au niveau de. Justement, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Parle-nous un peu de ta journée.
Ben, aujourd'hui, je me suis promené pas mal dans le Vendor's Room parce qu'il y avait certains exposants qui n'étaient pas arrivés encore, étrangement, qui étaient en retard. Okay. Puis aussi des acteurs, parce que les acteurs sont dans le Vendor's Room aussi, certains, pour signer des autographes. Donc, il y a des gens qui sont présents seulement certaines journées, puis qui ne sont pas présents d'autres journées, ça dépend de leur horaire à eux. Mm-hmm. Donc, c'est quand même le fun de faire le tour du Vendor's Room à tous les jours parce qu'il y a toujours du nouveau monde. Donc, une partie de la journée, c'était ça. J'ai fait aussi un petit mini-panel avec Connor Trenier et Dominic Keating de Enterprise. Donc, il y avait un petit panel questions-réponses. Eux autres sont tellement drôles et crus quand ils sont sur stage. Là, puis, la foule est toujours en délire. Là. Puis, ils ont des bonnes histoires à raconter. Donc, j'ai fait ça. Et j'avais un autre petit panel sur encore les comics et Okay. Les romans de Star Trek, c'était comme un petit peu pour apporter plus de profondeur à ce qu'on avait eu comme information hier, mm-hmm. mais c'était plus général, c'était pas juste Discovery, c'était, okay. c'était sur toutes les
questions de t'informer un peu plus les sur, autres franchises. Peut-être les entrevues que tu vas pouvoir nous donner plus tard. Il faut dire ça, j'ai mis Yann en contact avec David Mack, donc en espérant que vous allez pouvoir vous arranger pour une petite entrevue. Paul Forest, peut-être avec un peu de chance. Tu nous parlais d'une cosplayeuse québécoise sur place. Peux-tu nous parler
d'elle? Oui, je l'ai interviewée tantôt, aujourd'hui. Okay. J'ai fait une petite vidéo avec elle, puis okay. J'ai juste pas eu la chance. Je vais peut-être éditer un petit peu.
Oui, non, mais il n'y a pas de problème.
Je vais vous le poster sur la page de Facebook de Parlons Trek.
C'était quoi son cosplay aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est vraiment mon cosplay préféré qu'elle, elle fait. C'est un croisement de cosplay de deux franchises, de Star Trek Enterprise et de Firefly.
Oh.
Et c'est Commander Kaylee Tucker III. Kaylee Tucker III. Puis c'est un beau costume. C'est vraiment un beau costume. C'est très, très bien pensé. Là.
OK.
C'est simple, son costume. C'est pas rien de super élaboré, mais c'est une bonne idée. Que, en tout cas, ce que je vais vous montrer, quand j'aurai la chance, je vais uploader ce petit vidéo-là pour vous. Puis justement, elle aussi, elle parle beaucoup. Je lui ai posé beaucoup de questions sur la convention, le déroulement, qu'est-ce qu'elle aime, puis des suggestions pour les newbies de la convention. Là.
Non, on a hâte de voir ça.
Parce que à force de voir tout ça, puis... De voir toi puis de voir tous nos amis sur Twitter et sur Facebook être présents, c'est dur de résister.
Justement, je parlais avec Stuart tantôt de Trek Yard qui disait qu'il commençait à être très jaloux de ne pas être là. L'année prochaine, il prévoit d'y aller avec sa femme.
Oui, ben, c'est ça. Parce qu'il faut dire aussi, cette année, c'est une grosse année pour Star Trek. Là. L'année passée, c'était le 50e. L'année passée, c'était le 50e. Mm-hmm. Cette année, c'est all about Discovery. Là. Ils poussent Discovery, ils poussent CBS All Access. Ils veulent vraiment gagner les Trekkies.
C'est le retour de la franchise.
C'est le retour en grand de la franchise. Donc, jusqu'à date, ils ont l'air à bien avoir fait ça. Faut dire, c'est vrai, puis un petit, tu sais, parce qu'on aime bien la musique par longtemps. Il y avait un band sur le stage hier, au cours de toute la fin de semaine, The Sons of Kirk.
Kirk, ouais.
Ça, je pense que c'est plus des covers qu'ils faisaient sur le stage ou.
J'étais pas là, j'étais pas présent vraiment pour dans la salle principale. Très longtemps. J'ai juste pu voir certains covers qu'ils ont fait en fin de journée.
Okay.
Mais avec un peu plus de chance, peut-être demain, je vais pouvoir voir les autres tracks qu'ils font, là, s'ils ont du contenu original.
Venir jouer dans ta chambre.
c'est ça.
Ça, j'avais vu hier dans la salle des 22, j'avais vu Greg Graham. Si jamais à Manny, tu lui dis, c'est une petite entrevue pour parler de Sons of Kirk. Un podcast qui aime beaucoup la musique, ça ferait bien plaisir. Je ne veux pas te pousser à rien non plus, mais en même temps, je dirais pas non. Je pense qu'on commence à déjà tirer la fin, donc ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on parle. Premièrement, Yann, je te dirais un gros merci de ton grand sacrifice incroyable que tu fais pour nous.
Ça fait grand plaisir. Puis l'année prochaine, avec un peu de chance, vous allez pouvoir... venir vous autres aussi, puis vous allez pouvoir rentrer plus en profondeur sur qu'est-ce qu'on voit ici à la convention.
On va représenter le Québec et la francophonie telle qu'il se doit.
Et donc, peut-être en skank.
En skank, oui, parce qu'il y a notre très cher Dom qui a trouvé les patterns pour le male skank uniform de Next Generation. Et je me suis dit, tant qu'à vouloir faire une impression à Star Trek Las Vegas, on va le faire comme du monde, tu sais. Fait que... c'est un uniforme qui est très populaire, je me demande pourquoi.
Cette année, j'en ai pas encore vu, mais j'ai vu beaucoup d'hommes le porter dans les années précédentes. Donc, ouais. Oui, c'est pourquoi pas.
C'est ça.
Non. Vous allez même, les gens, ils risquent de même pas sortir.
C'est ça, ça
ça passe habitué. Comme dans le beurre. Là.
Ça n'est pas des hommes, hein?
Ouais. Mais si vous êtes un groupe de plusieurs personnes à le porter, ça va peut-être attirer plus l'attention.
Ouais. Ah, c'est ça, Dom.
On va ça prendre en photo.
Ça, Marc en science, Dom en opération, moi en command, puis on va être bon. Sur ce, on va vous laisser en musique avec une chanson d'un groupe que j'espère que Yann va réussir à interviewer, donc The Roddenberrys. Donc, il s'agit de la chanson Spock's Hand, qui est un cover de Roxanne. Donc, vous voyez un peu le jeu de mots. Donc, on part en musique avec Spock's Hand de The Roddenberrys. Et on vous souhaite une agréable soirée. Et on se reparle la semaine prochaine.
Live long. La semaine prochaine, tout le monde.
Bye-bye.
Fascinating.